magazine de la Grande Matinale, c'est une heure de culture et de société. Avec Charline Vanhoenacker, tout à l'heure, on fera un tour au Salon de l'Agriculture. À 9h50 toute cette semaine, c'est une sélection de nouvelles têtes que nous propose Daphné Burki. Ce matin, l'écrivaine québécoise Geneviève Rioux qui a échappé au pire et en a fait un livre bouleversant. À 9h30, vous retrouverez le débat du jour en pleine vacances d'hiver. Et alors que les JO de Milan-Cortina viennent de s'achever, quel avenir pour ce qu'on appelle les sports d'hiver face au réchauffement climatique et une envolée des prix qui tendent à en faire un sport de luxe. Alors, faut-il ranger les skis? Nous en discuterons tout à l'heure, mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Mathilde Serrel.
Si l'idée de vocation a pu être galvaudée à la regarder, elle fait totalement sens. Cette femme parcourt sans relâche les routes de Loire-Atlantique, de ferme en ferme, pour donner la vie, percer des abcès, contenir des virus, recoudre des plaies. Pas seulement celles des animaux, celles des éleveurs aussi, qui sont béantes aujourd'hui. Veto de campagne, c'est le nom du documentaire que Marianne Kerfrieden lui consacre sur France TV. Et à la suivre sur le terrain, on se surprend à penser qu'elle pourrait soigner le monde agricole tout entier. Comme une super-héroïne avec sa cape, ou plutôt ses gants et sa veto mobile. Pourtant, le rythme est rude, la relève incertaine. Mais tant qu'elle vit, elle travaille pour la rurale, la médecine des animaux de production, elle peut tout affronter, même sa propre maladie. Profession réparteur, Amélie Jolivel est notre grand portrait numéro 95. Bonjour Amélie Jolivel.
Bonjour Mathilde.
Pour être avec nous ce matin, dans ce studio, vous avez laissé vos bêtes, vos clients, votre camionnette. Qu'est-ce qui s'agite dans votre tête pendant que vous êtes ici, devant ce micro à bonnette rouge ?
Devant cette fameuse bonnette rouge que je rêvais de voir un petit peu, parce que je rêvais de changer d'univers. Là, ce matin, je suis en vadrouille, je suis loin de mon milieu. Et qu'est-ce qui s'agite
Vous pensez à des éleveurs que vous avez laissés dans telle ou telle situation, tel ou tel animal qui a peut-être qui va accoucher.
Ouais, alors peut-être. Oui, ce matin j'ai envoyé le petit SMS qui va bien. Mais par contre, surtout, je pense aux éleveurs à qui on a annoncé que j'allais à France Inter ce matin. Je pense à eux et à ceux qui se sont donnés un peu pour montrer leur milieu, montrer leur intimité avec Marianne. Et ce matin, je pense qu'ils sont à l'écoute.
Alors, on va vous écouter, vous aussi, dans le documentaire Veto de campagne de Marianne Kerfrieden, donc qui sera diffusé ce soir sur France 5 à 21h10. Ça s'ouvre comme ça.
Ouais, le premier, là, il est raide. J'arrive pas à déployer les pattes.
Bonjour.
Red. Je vais voir si je peux les bouger à la corde.
Je décris la scène, vous avez les bras enfoncés jusqu'à l'épaule dans une vache dont vous accompagnez la mise bas. Vous tentez d'attraper le premier veau.
Je pense qu'il est mort. Marie-Laure, je suis désolée. Il va falloir du courage parce que là, ça va faire mal.
On l'entend dans votre respiration. Vous donnez tout pour le sortir. C'est extrêmement physique. Presque comme si vous accouchiez vous-même. Qu'est-ce qui se passe ?
Non, c'est surtout que je l'ai, quoi. Enfin, je gagne à la fin.
Et vous l'attrapez ?
On l'attrape, on le sort. Et puis la journée, elle commence bien, quoi. Elle commence super bien. Il y en a deux, ils sont vivants. Je me suis trompée parce que je pensais que le premier était mort. Et Marie-Laure et Romain, ils sont au taquet, quoi. Ils attendent, ils nous ont appelés. Il faut sortir le veau. Et moi, je pense qu'à ça.
Et vous avez un sentiment de fusion avec à la fois l'animal et les éleveurs à
ce moment-là. Oui, fusion, oui. Il faut être avec eux, il faut être dans le geste, il faut performer le geste et il faut que ça se passe, quoi, qu'on soit ensemble et que ça fonctionne. Et ça, c'est presque tous les jours, quoi.
Fusion, c'est un mot que vous utilisez pour décrire votre travail de veto. Vous parlez d'une intimité très forte avec le monde paysan. Vous dites, on est fusionnel et fusionnel avec leurs emmerdes aussi. Ça représente quoi ce moment d'une naissance dans le métier ? Qu'est-ce qui se joue ?
Alors, il se joue d'abord l'attente de l'éleveuse ou de l'éleveur de soulager la douleur de l'animal, quand même. Et puis, il se joue aussi la question de sauvegarder l'outil de production, puisque, en fait, les veaux à naître, la production de lait qui va découler de ce vêlage-là, eh bien, il faut qu'elle soit optimale. Et donc, on joue beaucoup de choses dans ce moment-là.
Ces animaux représentent, c'est vrai, des revenus pour les éleveurs. C'est toute la différence entre la rurale, j'en parlais brièvement dans la présentation, et la canine. Vous nous expliquez ce que sont ces deux branches du métier de veto qui cohabitent dans votre cabinet.
Ouais, on est très fiers d'offrir un service complet à notre territoire. Hein. Donc la canine, c'est la médecine plutôt des animaux de compagnie, chiens et chats. Et la rurale, c'est la médecine qu'on propose à toutes les exploitations agricoles. Donc essayer d'être au top techniquement pour les accompagner sur des sujets techniques et la protection sanitaire. Et puis par des actes médicaux sur les grands animaux, bovins, chèvres, chevaux et brebis.
Et vous, votre expertise, c'est la rurale?
Oui.
On va parler de votre naissance, en tout cas de la naissance de votre vocation. Puisque je le disais en introduction avec vous, c'est vraiment un mot qui fait sens. Cette vocation, elle est venue après vos études d'ingénieur. Vous n'étiez pas partie pour.
Non.
Enfant, vous ne rêviez pas veto de campagne.
Non.
Et pourtant, c'est votre milieu.
Oui, c'est mon milieu, mais enfant, moi je viens d'un milieu assez modeste, en fait, où on ne s'autorisait pas forcément à faire des grandes études. Et puis, en plus, moi j'étais très lectrice, j'étais pas spécialement attirée par les animaux. Et je l'ai découvert plus tard, en fait, au contact, enfin en montagne, en gardant des animaux en montagne, en gardant ces vaches-là. Et d'avoir la responsabilité de ce cheptel, ça m'a complètement mis dans cette dynamique de soins et de prendre soin des vaches avec les éleveuses et les éleveurs à qui ils appartiennent finalement.
Quand vous parlez donc de ce moment où vous étiez avec des vaches en montagne, c'est quand vous êtes partie avec votre conjoint, c'est là que tout s'est joué, vous êtes devenue bergère là, pendant 4 saisons, et c'est ce contact avec ces vaches qui a réveillé en vous votre premier amour. Puisqu'en fait, la vache, c'était au centre de votre vie depuis le début.
Ben oui, mais des fois, vous savez comment c'est, quand on est dans un certain milieu, on ne voit pas ce qu'il a de particulier, en fait. C'est en faisant le pas de côté qu'on revient à sa culture d'origine. Donc moi, mon père, il adore les vaches, hein, ça c'est sûr, c'est une passion. Et il nous a transmis un certain capital de connaissances. On sait faire des choses, et du coup, c'est en s'éloignant de mon milieu d'origine que j'ai capté que j'adorais ça, en fait.
Mais vous êtes donc fille d'éleveur,
oui.
Vous avez toujours organisé votre vie autour des vaches.
Oui.
Vous alliez donc au contact des vaches, vous alliez voir des filets de différentes races.
Voilà.
C'est votre animal totem, d'une certaine manière. Pourquoi ?
Pourquoi ? Je sais pas tellement. C'est un peu c'est une évidence. J'ai toujours côtoyé cette espèce-là, et elle est. C'est un animal qui est hyper calme, qui est très futé. En fait, on a l'impression en plus que des fois les vaches, elles regardent un peu les éleveurs en disant franchement, t'es un peu. Enfin, elle regarde les éleveurs en leur donnant comme un miroir un peu avec plein d'humour, quoi. Donc c'est un animal qui est très attachant.
Elle se moque des éleveurs.
Un peu.
Elles ont un peu de malice. Bon.
Elles ont de la malice.
Alors, je parlais de premier amour, je n'oublie pas votre conjoint, Julien, bien sûr, avec qui vous avez fait donc 4 saisons dans ces montagnes, et là où vous avez eu votre épiphanie. Le problème, c'est que quand vous avez voulu passer le concours de veto, vous arrivez sur le tard, face à des jeunes qui, eux, sortent tout juste de prépa. Le directeur des études ne mise pas un sou sur vous.
Ah,
c'est le moins qu'on puisse dire. Il a dit, des profils comme les vôtres n'intéressent personne dans cet établissement. Comment est-ce que vous l'avez reçu, Amélie Jolivet?
Moi, j'ai été ébranlée au début. Je me suis dit, tiens, c'est marrant comme accueil. Et par contre, ça ne m'a pas fait grand-chose. Parce que j'avais tellement envie de faire ce métier-là. Parce qu'une fois que vous franchissez les portes de l'école Veto, là, il se passe quelque chose, quoi. Les salles d'anatomie, c'est très impressionnant. Nos enseignants nous délivrent quand même une quantité de connaissances. C'est très impressionnant en quantité, en qualité aussi de connaissances. Et du coup, je me suis dit, non, c'est ça ma place. De toute façon, c'est ça ma place. Puis,
même si on m'explique que c'est pas la mienne.
Oui, mais moi je savais que c'était la mienne. Et surtout, après, j'ai rencontré un ensemble de professionnels extrêmement bienveillants, bien dans leur boulot, qui m'ont mentoré, tutoré, je ne sais pas comment on appelle ça, mais qui m'ont tout de suite fait confiance et qui m'ont mis le pied à l'étrier vite.
Vous êtes installée à Châteaubriant, vous dites que vous arpentez ces terres de Loire-Atlantique, les chemins, les haies, les gens, vous les aimez. Comment ça se passe pour d'autres candidats, justement, qui sont peut-être mieux accueillis dans les écoles vétérinaires, mais qui n'ont pas d'ancrage? Il y a ce chiffre ahurissant qu'on découvre dans le documentaire, 95% des étudiants sont d'origine citadine.
Oui, alors comment ça se passe? Je ne suis pas dans leur tête. Moi, ce que je constate dans l'accueil des jeunes que nous faisons, c'est qu'il y a un moment où il faut
Parce que vous avez des apprentis
voilà, on a
au cabinet.
Des apprentis, on a des jeunes salariés, et il faut en fait faire un espèce de pont culturel pour leur faire apprécier cette campagne-là et ces exploitants agricoles-là. C'est-à-dire, il faut leur faire aimer ce milieu-là en traduisant un petit peu. Il y a un peu un cours de traduction pour voir au-delà de l'âpreté quand même de la situation des fois, eh ben il faut voir le plaisir que c'est de travailler avec des agriculteurs et des agricultrices qui savent ce qu'ils font, qui sont experts de leur système de production. Ils ont des choses à dire et il faut leur faire voir que ça, c'est intéressant d'aller là. Donc, il y a un petit travail d'accompagnement.
Et c'est une donnée essentielle dans votre travail. Il ne faut pas seulement aimer les bêtes, il faut aimer les humains. Vous dites même, pour exercer mon métier, il faut aimer les gens bien plus que les animaux. C'est une autre difficulté par rapport à l'idée qu'on se fait du métier de veto de campagne.
Bah oui, parce qu'on peut avoir une somme de connaissances hyper pointues sur les bovins. À un moment donné, il faut comprendre que les gens à qui elles appartiennent eh ben, font des choix qui ne sont pas forcément ceux qu'on ferait. Donc il faut quand même aller voir que pourquoi... Un éleveur, il a toujours une bonne raison de faire ce qu'il fait. Mais pourquoi il le fait, alors que ça nous paraît un peu une hérésie scientifique, ou voilà, pourquoi il le fait? Et il faut accompagner ça, quoi. Très, très fort.
J'aimerais qu'on vous entende justement les accompagner, ces éleveurs, au volant de votre véto mobile, là où vous passez aussi beaucoup de temps en sillonnant ces fameuses routes de campagne où vous échangez avec tous vos clients. C'est un vrai standard téléphonique.
Ouais, Jean-Michel.
Oui.
Je vais venir voir la vache qui ne doit pas avoir beaucoup bougé.
Non.
Et je vais l'euthanasier, je pense.
Ouais, salut Tony. Amélie Jolibel au téléphone. J'appelle pour prendre des nouvelles de la méningite. Savoir s'il a pris le bon chemin, le veau, quoi.
Ouais, Thierry, Amélie Jolibel. Ça va?
Oui, bonjour.
Dis-moi, comment va la vache?
Elle est mieux, mais elle mange toujours, quoi.
Oui, elle est avec ses copines ou pas? Elle est toute seule?
Elle est toute seule, là.
Et tu as essayé de la mettre avec ses potes?
Non, je l'ai pas fait hier soir.
Et il y a des gens qui sont comme ça, ils aiment boire un coup, mais avec les copains. Tu vois?
Oui, d'accord.
C'est bon?
D'accord.
Tu situes?
Oui.
Bon?
Oui.
Allez.
On retrouve votre gouaille. Et ça vous émeut, c'est à la fois toutes les situations que vous avez, auxquelles vous êtes confrontés dans une journée, et puis on l'entend, il y a aussi cette situation, c'est que souvent, on vous propose de rester boire un coup. Alors souvent, contre la bière, vous demandez de l'eau, même la trouspinette, vous n'avez pas goûté. On voit dans le documentaire, c'est quoi la trouspinette?
La trouspinette, j'avoue, je ne connais pas, je crois que c'est une spécialité vendéenne, et en fait, Yolande et Philippe, il me semble, la proposent à Marianne et à Aurélie,
à la réalisatrice
et à la chef opératrice. Aurélie Piel qui du coup décline elle aussi, je crois.
Qu'est-ce qui vous émeut quand vous entendez là, parce que je voyais vos yeux qui s'humectaient en entendant ces situations, c'est les détresses quotidiennes.
Génial, quoi, d'être aussi proche des gens, quoi.
Et c'est pour ça que vous faites le métier.
Ouais, ça me plaît beaucoup.
Est-ce qu'on pourrait dire que veto de campagne, c'est divan de campagne, c'est-à-dire...
Non, j'ai pas cette prétention-là. Nous, on essaye plutôt d'accompagner les gens sans... Il n'y a pas de notion de divan, il n'y a pas de notion de méthode, en fait, d'accompagnement. Par contre, il y a un plaisir à être aux côtés de gens, je répète, mais qui ont une stratégie, qui développent leur exploitation, qui ont une convivialité avec leur cheptel, qui essayent de résoudre les problèmes. Nous, ce qu'on leur apporte, c'est de l'expertise scientifique, d'abord, pour essayer d'éloigner les embrouilles, de ne pas trop en avoir, et d'être au top, et en même temps, de nourrir ce tissu-là de gens, voilà, nous, on est une PME parmi d'autres. comme l'installateur de machines à traire, ouais. comme le marchand de bestiaux. Voilà, nous, on fait partie de ce monde-là.
Et ce monde-là, vous en avez besoin. Enfin, voilà. Vous ne fonctionnez pas sans les
voilà,
éleveurs et inversement.
Voilà, on se nourrit ça et on les connaît bien, les gens. Et effectivement, on suit leur trajectoire. Et ben ça fait que... Donc, non, je ne confesse pas les gens. Mais par contre, on s'intéresse, je dis « on » avec mes associés, hein, on s'intéresse à leur devenir et à ce qu'ils font. Et c'est ça qui nous nourrit, quoi.
Vous dites « on est le prolongement de l'État dans le monde agricole ». Comment vous répondez à la détresse, justement, des agriculteurs et des éleveurs qui est très présente en ce
moment ? Ouais, alors, pour le coup, quand on est le prolongement de l'État, c'est qu'on exerce notre mandat sanitaire. Et c'est pas pour répondre à la détresse qu'on exerce le mandat sanitaire. On contrôle la santé des cheptels sur des maladies réglementées. On fait des opérations de prophylaxie. Et ça, c'est pas pour gérer la détresse des éleveurs.
Mais pourtant, vous y êtes confrontés, forcément.
Mais oui.
Puisque vous êtes la charnière, vous êtes la courroie
de
transmission.
Donc, on essaie de le faire au mieux. Et dans le cadre qui nous est réservé d'exercice de ce mandat sanitaire, de le faire bien et de faire en sorte que les éleveuses et les éleveurs satisfassent à leurs obligations réglementaires, mais pas déshumanisés, quoi. Nous, on est des opérateurs humains.
Et vous avez trouvé les mots, par exemple, pour que cette vache, elle se mette avec ses copines pour boire un coup. Et là, c'est pareil, c'est dans les mots, finalement, ce qui vous rapproche quand même du psy, que vous les amenez à accepter, donc parfois, ces décisions très difficiles. Pour son ouverture, d'ailleurs, samedi, le Salon de l'Agriculture a été marqué par le boycott de la Confédération Paysanne et de la Coordination Rurale, deux syndicats qui s'étaient fortement mobilisés ces derniers mois, après la décision du gouvernement de procéder à l'abattage systématique des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse. On va écouter Vincent Collineau, coprésident de la coordination rurale de Gironde, au micro du quotidien Sud-Ouest.
On est en train de perdre le savoir-faire parce que les gens à qui on abat les troupeaux ne se relèvent pas, ils ne peuvent pas se relever. Et les enfants ne peuvent pas reprendre les fermes. Donc on est en train de supprimer un pan de génétique, de savoir-faire, d'histoire. Enfin, c'est énorme ce que l'on est en train de perdre. J'étais en Ariège, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Non.
C'est une situation que vous vivez dans votre région.
Alors, nous, la dermatose nodulaire, on ne l'a pas. Hein. On ne l'a pas eu et on ne l'a pas. Et on regarde ce qui se passe dans les autres zones avec stress et angoisse. On a essayé de communiquer avec nos confrères et consoeurs de Savoie, par exemple, où là, clairement, les vétos ont accompagné les éleveurs dans de l'abattage et de la vaccination, et accompagné les éleveurs qui sont obligés en fait, d'abattre des cheptels pour que la maladie ne se diffuse pas, c'est-à-dire la personne, elle abat son cheptel pour que ça passe pas aux voisins quand même. Hein. C'est ça le ciment des politiques collectives.
C'est une solidarité.
Oui, et nous, notre devoir, c'est d'accompagner les gens dans cet abattage et d'abattre pour le coup à la fin.
J'aimerais dire pour conclure que vous êtes une rescapée de votre propre maladie, puisque vous avez eu un cancer réputé incurable à 35 ans, et que la perspective de reprendre le boulot, on le voit dans le film, vous donnait de la force. C'était ça, la perspective de se sentir vivante, c'était de repartir le plus vite possible dans votre camionnette, Amélie Jolivelle.
C'était, bon, quand même, d'être bien dans ma famille, mais effectivement, c'était d'être en mouvement, quoi. Parce que quand on est en mouvement, on existe, on existe, on est là, on affirme, on propose, on est là et on vit, quoi. Quand on a froid, quand on a des difficultés, là, j'ai mal des fois pour faire un village, mais je suis vivante, quoi.
Mollir, c'est périr. C'est votre mentor qui disait ça, votre mentor en clinique
qui
bovine.
Nous écoute.
Et qui nous écoute ce matin. Merci Amélie Jolivelle, c'était trop court et j'espère que tout le monde ira voir ce film Veto de campagne, le documentaire qui vous est consacré, réalisé par Marianne Kerfrieden, qui est en sélection officielle au Festival international du film documentaire, qui est disponible sur la plateforme France TV et qui est diffusé ce soir à 21h10 sur France 5. Merci. Un animal déguisé en madone, ça vous dit quelque chose? Je cite Clara Luciani dans le texte. On dégoupille.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat?
suite La Grenade de Clara Luciani. Retour en 2026, vous êtes dans le mag de la grande matinale et nous sommes ensemble jusqu'à 10h à 9h45. Charline Vanhoenacker, bonjour.
Bonjour la France Inter, je suis attachée aux traditions, vous savez. Hein. Oui. Je vais donc vous parler du salon de l'agroalimentaire. De l'agriculture, pardon. Oh là là. Bon, il n'y a pas de vaches, mais il y a des courgettes. Et des topinambours.
Pas très bien. À 9h50, les nouvelles têtes. On réécoutera l'écrivaine survivante Geneviève Rioux au micro de Daphné Burki. 9h28 sur France Inter. C'est le débat du jour. En pleine vacances de février et alors que les JO d'hiver de Milan Cortina viennent de s'achever, débat ce matin sur le ski et ce qu'on appelle les sports d'hiver. Si la montagne bénéficie cette année de conditions d'enneigement particulièrement favorables, les stations de ski font face à un mur, celui du réchauffement climatique, qui menace à moyen terme tout un modèle économique, une réalité qu'il faut regarder en face et qui pose la question de modèles alternatifs pour une pratique toujours plus inaccessible à une écrasante majorité de Français. Un autre imaginaire de la montagne est-il possible et nécessaire?
Comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planter du bâton. Et dès l'arrivée, pour vous récompenser, nous irons prendre un verre de vin. Le planter
de bâton ne va pas du tout changer le bâton.
Le planter le bâton.
Alors, faut-il ranger les skis?
France Inter. La grande matinale, Mathilde Serrel.
On en débat avec Émilie Bonivard, députée LR de Savoie, conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour.
Bonjour.
Et François Gémen, professeur à HEC Paris, chercheur au FNRS, fonds de la recherche scientifique, co-auteur de l'Atlas de l'Anthropocène aux presses de Sciences Po. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, on commence avec vous, François Gémen, avec un point chiffre. Le réchauffement climatique va donc vers des hivers de moins en moins enneigés, d'après les dernières projections de 2050 qui ont été portées par Météo France. Dans une France à plus 2,7 degrés, le nombre de jours où l'on pourra skier va considérablement diminuer. Dans les Alpes du Sud, on passerait de 149 jours à 124, c'est moins 25. Dans le Jura, de 138 jours à 107 jours, moins 31. Dans les Vosges, de 128 jours à 85 jours, moins 43. Et on le sent dans cette carte, les Alpes du Nord vont mieux résister. L'ensemble du domaine skiable français va être lourdement impacté. Donc la question, est-ce que ce n'est pas tout simplement si les stations de ski seront impactées ou non, mais à quel point?
Bien sûr. Alors effectivement, si on se projette à 2050, c'est-à-dire à un horizon pour lequel on connaît déjà à peu près les impacts du changement climatique, on estime qu'il va y avoir un mois de neige en moins dans les stations de basse et moyenne altitude, pardon, deux mois de neige en moins dans les stations de basse et moyenne altitude, un mois de neige en moins dans les stations de haute altitude, et que l'enneigement va devenir plus aléatoire. Ça veut dire qu'on ne pourra pas compter sur le fait qu'il y aura de la neige chaque année. Ça va devenir un peu comme les Noëls blancs à Paris. On est content quand il y en a un, mais on ne va pas installer des télésièges sur la butte de Montmartre, parce qu'on se rend bien compte qu'on n'aura pas, évidemment, de la neige tous les Noëls à Paris.
Donc ce sera très aléatoire, ce qui rend les politiques très difficiles à créer.
Ce qui rend les politiques difficiles à créer, ce qui rend la communication à créer, parce que si vous avez une année avec beaucoup de neige comme cette année, où on voyait la neige aux Jeux Olympiques, les gens vont se dire, vous voyez, il n'y a aucun problème, il va neiger, et tout ce qu'on nous raconte, ce ne sont que des sornettes. Et donc, effectivement, il va falloir se projeter sur un autre modèle pour la montagne qui soit moins dépendant du ski à l'avenir, parce qu'on ne pourra plus le pratiquer que de façon aléatoire, et ça risque surtout de devenir de plus en plus réservé à une élite qui pourra se ruer sur les stations de haute altitude ou se faire déposer en hélicoptère sur les plus hauts
sommets. Devenir un sport de luxe. Alors, Émilie Bonivard...
C'est interdit en France.
Alors, voilà, ça, vous corrigez, c'est pas possible. C'est une question beaucoup trop prématurée pour vous. Faut-il ranger les skis? Je rappelle que vous, le modèle du ski, vous avez grandi dedans. C'est votre engagement politique, mais vous êtes aussi monitrice de ski, fille de moniteur de ski. Donc, pour vous, c'est une question peut-être qui n'est pas urgente de dire est-ce qu'on range les skis ?
Non, elle n'est pas urgente parce que aujourd'hui on peut skier comme dans n'importe quelle entreprise. Quand une entreprise fonctionne, qu'elle fait vivre des dizaines de milliers de familles sur un territoire, eh bien on souhaite évidemment la préserver. En revanche, il serait irresponsable de ne pas se préparer à une modification du modèle. Mais quand on dit modification, c'est pas l'arrêt. Vous l'avez dit, il y aura encore de la neige en 2050. Selon une étude d'IANEIGE, Météo France et INRAE, 90% des pistes seront encore skiables en 2050. Pourquoi ? Parce que nous avons commencé à nous adapter avec notamment un système de neige de culture et de damage qui est adapté et quelque chose qui est piloté très finement. Et je tiens à dire que la neige de culture, c'est seulement 10% de la neige aujourd'hui.
Alors, ce que vous appelez la neige de culture, c'est les canons à neige, quoi, en gros.
Voilà, c'est de l'eau et de l'air, de l'eau projetée et de l'air pour permettre de sécuriser l'enneigement sur des parties stratégiques. Donc, nous,
mais
l'objectif,
est-ce que c'est pas un pourcentage qui va augmenter, justement ?
Alors, non, là, par exemple, il a diminué parce qu'on arrive à mieux piloter, parce qu'il y a beaucoup d'innovations dans la neige de culture et dans les enneigeurs. Donc, on a réussi à diminuer notre prélèvement en eau. Et l'objectif, également sur les techniques de damage, donc l'objectif, c'est de toujours être meilleur. En revanche, nous nous adaptons, bien évidemment, les stations s'adaptent. Alors, il y a deux catégories de stations, celles qui seront moins exposées à la diminution de l'enneigement et celles qui seront plus exposées. Et nous n'avons pas attendu, nous n'attendons pas pour accompagner ces stations dans la diversification pour un accueil touristique et maintenir une activité touristique.
Je vous laisse reprendre votre voix et vous libérer de ce petit chat. François Gémen, alors vous, l'histoire des canons à neige, pour vous, c'est la fuite en avant totale, même si c'est un pourcentage qui n'est pas si énorme, hein, on l'entend, donc 10%, c'est pas si grand que ça.
Je ne dirais pas que c'est la fuite en avant et je peux comprendre que ça soit un appoint nécessaire, parce qu'effectivement, il y a une vraie vie économique, une activité économique tout à fait importante qui dépend aujourd'hui de l'économie du ski. Par contre, on ne peut pas aller vers un système où effectivement l'enneigement reposerait largement sur les canons à neige et donc sur de la neige artificielle. Si à un moment donné il n'y a plus de neige naturelle, on ne peut pas imaginer que ce soit la neige artificielle, parce que même malgré les évolutions techniques que vous avez rappelées, il y a quand même un sujet sur l'eau, malgré les retenues collinaires. Si le système repose exclusivement sur les canons à neige, ça ne va pas aller. D'où l'importance d'évoluer à l'avenir, de diversifier la pratique touristique, de diversifier le modèle économique de la Savoie et d'autres départements qui dépendent de la montagne. Ça, c'est vraiment important, je pense, de prendre conscience de cette réalité pour voir comment on fait évoluer le modèle.
Et c'est une évolution nécessaire, je pense qu'on le comprend vraiment avec vous, Émilie Bonhiver, puisque pour vous, on parle presque de la fermeture d'un bassin minier. C'est-à-dire que si on ferme les stations de ski aujourd'hui, dans les régions, c'est à peu près l'équivalent du même sinistre.
Oui, il faut bien comprendre les choses. Les stations de ski, c'est 120 000 emplois directs et autant d'emplois indirects. C'est une économie qui est considérable. C'est ce qui fait vivre nos familles en montagne. Donc, pour nous, quand je dis c'est l'équivalent d'un bassin minier, quand on dit on va arrêter de skier, on va arrêter les stations, c'est 120 000 emplois qui sont perdus et c'est des territoires qui se vident. Et aujourd'hui, le ski, c'est 86% du chiffre d'affaires des stations. Donc, on vit du ski. La question, c'est...
Les modèles alternatifs,
par voilà, exemple. La question, c'est qui, en tout cas moi, personne ne m'a montré une activité économique en capacité de produire la même valeur. Et donc, parce que ce n'est pas une question de création de valeur, c'est eh bien, de garder les gens au pays et de vivre au pays. Quand je prends l'exemple du bassin minier, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand on a fermé des industries, eh bien, contre 30 emplois industriels, on en a créé un dans les services. Malheureusement, c'est ce qui se passera dans nos stations. Donc, diversification, oui, mais sécurisation de l'enneigement est essentielle parce que nous ne connaissons pas, malgré tout notre travail, d'activité de remplacement et on serait dans la même situation que la fermeture d'un bassin minier.
François Gémen, pour vous, il faut changer de modèle économique mais aussi raconter d'autres imaginaires. C'est un imaginaire, on l'entendait dans ce petit extrait, des bronzés font du ski, très trente glorieuses, hein, d'un ski qui serait pour tout le monde, alors que en effet, c'est de plus en plus élitiste, mais renouveler les imaginaires, c'est pas avoir tout de suite là, de nouvelles pratiques à proposer et donc répondre à l'enjeu économique.
Bien sûr, c'est là où il me semble que l'organisation des Jeux d'hiver en 2030, par exemple, pourrait précisément être l'occasion de réfléchir ensemble à la manière dont on va projeter un nouvel imaginaire.
Déjà, ça va se faire dans des installations qui existent.
Qui sont largement existantes, à part la patinoire. De réfléchir à la manière dont on va pouvoir projeter un nouvel imaginaire sur les sports d'hiver et surtout sur la montagne. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va pouvoir se projeter dans un modèle économique d'avenir ? Comment est-ce qu'on va pouvoir rendre la montagne plus accessible aussi ? Aujourd'hui, il n'y a guère que 15% 60% des Français qui partent au sport d'hiver. Moi, je plaide, par exemple, pour que ces Jeux olympiques ne soient pas des Jeux d'hiver, mais soient de véritables Jeux de la montagne, avec l'introduction de nouveaux sports, comme par exemple le cross, le cyclocross, l'escalade sur glace, le trail, c'est-à-dire qui permettrait aussi d'attirer un autre public à la montagne, de rendre effectivement la pratique des sports de montagne plus accessible à tous, et de rendre les Jeux aussi davantage universels, puisqu'il n'y avait que 92 nations qui participaient aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina, c'est-à-dire la moitié de celles qui participent aux Jeux d'été. Il me semble que tout le monde aurait à y gagner en faisant de ces Jeux de véritables Jeux de la montagne et pas simplement des Jeux d'hiver.
Et il y a également dans la question de l'accès, on va dire, démocratique à ce qui est proposé par la montagne, 23% du chiffre d'affaires des opérateurs des remontées mécaniques ou des petites et moyennes stations est issu des subventions. Et donc là aussi, il y a la question de l'argent public. Comment est-ce qu'on répond à cet argent public donc, qui va être versé dans des stations qui, elles, concernent donc une toute petite proportion de Français, Émilie ?
Alors, très honnêtement, il y a très peu d'argent public aujourd'hui qui est versé dans les très grosses stations. Et c'est vrai qu'en revanche, comme on peut le faire pour une entreprise, quand on a une petite entreprise qui va mal, on essaye de l'accompagner jusqu'au moment où on fait le constat qu'on ne peut plus et qu'il faut trouver un autre modèle. En revanche, je reviens sur ce que vous avez...
Donc on va repartir en arrière sur le...
Alors, on ne repart pas en arrière. Je rejoins totalement ce que vous avez dit. L'objectif, c'est de créer aussi un nouvel imaginaire, vous l'avez dit. En Savoie, on a une nouvelle agence économique qui s'appelle Explore Savoie, où on élargit très fortement l'offre touristique qui est basée sur l'imaginaire et sur, on va dire, nos terroirs et l'histoire de nos territoires de montagne. Donc, on n'est plus du tout focus uniquement sur le ski. On élargit très largement les choses. Et la deuxième chose, c'est que nous, on se bat en Savoie pour une montagne accessible à tous.
Moi, j'ai... Oui, donc l'idée du sport de luxe, ça vous énerve ?
C'est pas que ça m'énerve, parce que c'est une réalité. Et ça m'énerve. Voilà. Donc, nous, notre objectif, ça a été le cas avec le département de la Savoie, mais également avec la région, et moi, j'ai porté une proposition de loi dans ce sens, c'est de démocratiser au maximum les sports d'hiver. Ma proposition de loi, c'était de renforcer les classes de neige, les classes de découverte, pour permettre à tous nos jeunes, à tous nos enfants, de venir découvrir et d'aimer la montagne, parce que c'est leur pays. La France, c'est 15% de territoire de montagne, c'est aussi leur pays. Et nous, on se bas pour ça, et il faut encore qu'on arrive à travailler davantage. À la région, on finance par exemple la réhabilitation des centres de vacances, notamment des centres de tourisme social, pour qu'on ait un ski accessible à tous.
Donc, pour sortir de cette perspective élitiste, parce que de côté, ça, les neiges fondent au soleil et en plus, il faut financer une activité qui ne concerne qu'une toute petite partie des Français. Forcément, c'est difficilement recevable, mais dans les installations aussi, François Gémen, il faut réfléchir à d'autres modèles. Par exemple, lorsqu'on va installer un télésiège, vous préconisez qu'on installe un accroche VTT à l'arrière, enfin que ce soit tout de suite hybride.
Oui, alors c'est juste un exemple parmi d'autres et je sais bien que ce n'est pas toujours évident de trouver un modèle économique rentable sur le VTT pour les stations de montagne, en tout cas uniquement sur le VTT. Mais moi, je n'ai pas du tout de problème à ce qu'il y ait des subventions publiques qui aident précisément les stations de basse et de moyenne altitude à se redéployer vers un autre modèle économique. C'est ça aussi la question de la transition. On parle de transition climatique ou écologique. C'est aussi une transition économique qui touche à notre capacité à nous projeter vers d'autres modèles. Et donc, oui, ça nécessite certains investissements en équipement.
Mais finalement, je pense que vous allez pouvoir plancher tous les deux sur peut-être même si vous n'êtes pas d'accord sur tout, sur cet avenir du ski, avant qu'on les ait totalement rangés. Merci à tous les deux. D'abord, François Gémen, professeur à HEC Paris, chercheur au FNRS, je le disais tout à l'heure, et co-auteur de l'Atlas de l'Anthropocène aux presses de Sciences Po. Et merci beaucoup, Émilie Bonivard, députée LR de Savoie, conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, et puis monitrice de ski. Vous allez faire quelques petites descentes, là ?
J'en ai fait un peu la semaine dernière.
Chanceuse. Merci à tous les deux.
Merci
beaucoup.
Merci.
Hey, what are you doing later tonight after you're done with work? I know you might be tired. I'm gonna be awake. Like
seen realness.
Please stop acting like
that. Because I've lived in my life, need to be reshuffled. The Lexus LS and I'm bubbles. I usually hang around guys who's rebels. Who sip on codeine, I'm no rebel. Cleared out my whole schedule and still you act like you're too busy. Bitch, stop acting like you got a real job.
Bitch, that's not a real job.
Taking those pics in a brush and jam your schedule. We made plans twice and it's unsuccessful. I'm cause the more that I look in your face, you look like your dad. And it's hard picking him with a big old wireless. Damn, that's crazy.
Le choix musical de la grande matinale aujourd'hui, c'est Thundercat, collaborateur de Kendrick Lamar et Erykah Badu, entre autres, considéré par le magazine Rolling Stones comme l'un des meilleurs bassistes de tous les temps. Il sort un nouvel album au printemps, premier extrait que vous venez d'entendre en playlist sur France Inter, « I did this ». To myself. Il est 9h44 sur France Inter. Merci de nous écouter. Yeah. Charline von Unikea, vous êtes bien installée dans le studio. Et c'est à vous, on va faire un tour au Salon de l'Agriculture et sans les vaches.
Eh oui, pas de vaches. Et puis surtout, toujours aucun jet d'œuf ou de farine sur une personnalité politique. On s'emmerde cette année, Mathilde. Et puis tout le monde attendait la vidéo TikTok de Rachida Dati en train de traire une vache.
Ah bah oui, elle est où
ouais, si elle n'est pas arrivée. Si elle perd les municipales, ce sera de la faute de la gauche et des charolaises. Alors en réalité, les vaches auraient pu se déplacer au Salon de l'Agriculture, mais quand elles ont vu l'état du débat politique... Elles ont préféré choper la dermatose. Cette année, l'égérie du salon, c'est la vache Biggin, mais c'est un hologramme, produit du lait virtuel et des steaks numériques. Et pourtant, Emmanuel Macron avait souhaité la présence de quelques vaches, malgré l'épidémie. Il prônait une sorte de salon demi-écrémé. Mais malgré ses efforts, il n'y a pas de bovins. Donc même ça, il n'y arrive pas. Après ça, comment voulez-vous qu'on se fasse respecter par Trump ou Poutine ? Alors il a visité le salon ce week-end et un président de la République sans les vaches, vous imaginez bien la panique parmi les animaux sur qui ça va tomber. Il s'est rabattu sur les chèvres pour leur tâter le cul. Et en tenant à distance tous les agriculteurs en colère, et puis comme il refuse aussi de parler avec les syndicats, il a préféré aller directement écouter les revendications des moutons. De toute façon, les agriculteurs l'ont dit, hein, ils s'en foutent complètement de la visite présidentielle. Cette année, le Salon de l'Agriculture, c'est vraiment « Adieu vos vaches et Macron ». Alors, heureusement que les lobbies de l'agroalimentaire sont en force pour se rappeler qu'on est bien au Salon de l'Agriculture. D'ailleurs, pour les visiteurs, c'est là qu'on distribue le plus de produits, vous savez. Hein, mais quand vous enchaînez un verre de lait avec un demi-reblochon et que vous finissez par une glace pistache, les produits laitiers, c'est plus du tout vos amis pour la vie, Mathilde. Alors, pour l'instant, l'événement le plus emblématique du salon, c'est la bagarre qui a éclaté dimanche soir.
Oui,
et qui a débouché sur une quinzaine d'interpellations après qu'un individu a sorti un couteau sur le stand du nougat. Alors, la piste djihadiste est écartée, hein, on n'a pas entendu crier « Nougat Akbar
oh ».
Le plan Vigie-Noisette a été levé.
Oh.
L'hypothèse la plus probable étant une polarisation extrême entre partisans du nougat et le camp de la nougatine, bien sûr. Mmh. Et à la rédaction de France Inter, tout le monde est là. Donc, je vous en supplie, ne m'envoyez pas couvrir le salon du nougat. J'ai une femme et des enfants. Au moins, on ne déplore aucun incident au stand de l'agence bio. Parce qu'il n'y a plus de stand de l'agence bio au salon de l'agriculture. Ils sont relégués dans une camionnette qui est garée devant le salon, info Mediapart. Alors la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, elle déteste l'agence bio. Si elle pouvait, elle abattrait tout le troupeau. Alors pour l'instant, elle se contente de les mettre en quarantaine. Elle leur a retiré 15 millions de crédits et maintenant elle veut licencier sa présidente. Bon, il y a un an, elle voulait carrément la supprimer. Hein. L'agence, pas la présidente.
Oui, quand même.
Quoique. Et qui lui a suggéré de la supprimer ? Hein, Laurent Duplon, le mec vraiment là le plus toxique de France, quoi. Faut dire qu'il a un nom, être une égérie Total Énergie. Sénateur, ça doit être très mal payé, sinon il serait pas obligé de cumuler avec un petit boulot de lobbyiste de l'agriculture intensive.
Merci Charline Vanhoenacker. C'est tout de suite les nouvelles têtes.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête avec son livre bouleversant sous le bras, même pas morte.
Ce matin, ma nouvelle tête s'appelle Geneviève Rioux. Elle est écrivaine, poète, doctorante en psychologie, et elle nous vient du Québec. À 26 ans, elle survit à une tentative de viol et de féminicide. Laissée pour morte, elle vit. Aujourd'hui, elle transforme ce que la violence voulait réduire au silence en littérature. Son premier roman s'appelle « Même pas morte », un titre comme un défi et une question immense. Que fait-on de la survie quand on refuse que la peur écrive la fin de l'histoire ? Bonjour Geneviève Rioux, bienvenue sur France Inter.
Enchantée Daphné, merci de l'invitation.
Merci d'avoir accepté cette invitation parce que j'imagine depuis la sortie de roman il y a quelques semaines, le fait d'en parler souvent, de se replonger dans cette histoire, ça peut être un peu éprouvant.
C'est éprouvant, mais en même temps, c'est devenu une histoire. J'en ai fait quelque chose d'autre que le drame à son premier jour. Puis c'est ça qui compte pour moi, c'est de transporter avec moi cette histoire-là, la faire porter à d'autres personnes, montrer qu'on peut être survivante au-delà d'être victime d'un crime comme ça. Puis ça, je trouve que ça redonne beaucoup de pouvoir sur sa vie. On décide d'en faire ce qu'on veut, finalement.
On va la raconter, cette vie. Ce roman, il est particulièrement bien accueilli au Québec et je comprends pourquoi vous commencez votre tournée en France et il est important, ce premier roman. Il s'ouvre sur cette phrase « Qui meurt au moment de tuer ?» Est-ce que le livre, il est né de cette question-là, finalement?
Oui, tout à fait. Je l'ai porté tout au long de l'écriture, cette question-là. Qui meurt au moment de tuer, pour moi, c'est une tentative de meurtre qui est raté, c'est la posture du livre. Il y a un certain mépris, on s'adresse à l'agresseur, mais tout le long du livre, on sent que c'est raté, quoi, qu'elle se relève de ça, qu'elle va de l'avant. Puis on se met à comprendre que c'est l'agresseur qui est perdant de tout ça. C'est Steph qui a gagné à la vie, là, Steph, le personnage principal.
Stéphanie, on va en parler de ce livre, on va en parler de Stéphanie, mais il faut dire ce qui vous est réellement arrivé. Et si vous nous écoutez en ce moment, peut-être éloignez les enfants du poste de radio quelques minutes. Nous sommes dans la nuit du 7 au 8 avril 2018, vous rentrez chez vous, vous êtes épuisé, vous vous couchez et en pleine nuit, un homme s'introduit dans votre appartement pendant que vous dormez. Il tente de vous violer, de vous tuer, il vous porte 18 coups de couteau, il vous étrangle et il vous laisse pour morte. Et pourtant, vous luttez, vous parvenez à appeler les secours et aujourd'hui vous survivez. Dans ce roman, nous sommes en 2016 et en effet votre personnage s'appelle Stéphanie et l'agresseur, lui, vous le nommez Toé. Même pas morte, c'est pas un témoignage, vous l'avez compris, c'est un roman, c'est une fiction. Qu'est-ce qui vous a décidé à raconter cette histoire sous forme de fiction?
Donc, il y a des rapprochements entre ce que j'ai vécu, ce que Steph a vécu aussi. On part du même crime, la tentative de viol, de meurtre. La lutte, effectivement, c'est ça qui va traverser le roman. Il y a une lutte tout au long. On veut retrouver qui a fait ça parce que l'agresseur est masqué dans les deux cas. Et pour ma part, ben, j'ai pas obtenu justice par le système. Donc, l'écriture est venue comme une justice alternative. Ce qu'on a besoin comme victime, c'est d'être entendu, d'être cru. Et la littérature permet ça. Permet de transmettre des émotions qui sont fortes, même par la fiction, on transmet toutes sortes de messages.
Vous allez nous lire un passage du roman. C'est au début, on a vu ce qui vous est arrivé, et c'est le moment où la mère de Stéphanie, le personnage, est appelée pour venir la retrouver à l'hôpital.
Sa mère se présente à l'hôpital. Enfin, après la route interminable et sans réponse. José croyait pouvoir ramener Steph à la maison avant d'être renseignée sur sa tragédie. Elle entre dans la chambre. La travailleuse sociale leur laisse l'espace pour se retrouver. José regarde longuement sa fille. « Oh, Stéphanie. Maman. Oh, Stéphanie. Ma, je t'envie. » Sa mère, témoin des lacérations fraîches sur sa figure poignardée. Steph aperçoit la détresse dans ses yeux maternels, sa désolation et son calme malgré tout. Elle peut à peine imaginer la pointe de son impuissance, la crainte de son épouvante et tout son amour. Elles restent toutes les deux silencieuses à dévisager la violence dressée comme un mur entre elles. José escalade cette paroi. « Pas toi aussi. » Trois mots de porcelaine pour parler de l'agression. La sienne et celle de Steph. La mère et la fille, maintenant unies par cette souffrance. « Ton visage, Steph. » Trois mots pour souligner ta fureur. Steph lui montre son poing gauche, gonflé et bleuté. « Je lui ai crissé une volée, main. » Sa mère devine la fierté dans son ton et lâche un rire agité. En temps tacite, elles prennent soin de l'histoire ainsi. À travers l'humour, la haine se décharge un peu. « J'ai tellement soif, maman, trouve-moi de l'eau. » José quitte la chambre. « Madame, excusez-moi, ma fille aimerait boire quelque chose. » L'infirmière revient avec un gobelet et une éponge. Elle sermonne Steph calmement. « La consigne est la même. Tu dois rester à jeun. Tu peux mordre dans l'éponge pour humidifier ta bouche. » Steph a l'air affligé et sa mère lui fait un clin d'œil sans être remarquée. En sortant, l'infirmière l'informe de la suite des choses. « Tes points de suture seront faits bientôt, t'es chanceuse, le docteur Farouk est de service ce matin. C'est le meilleur plasticien en ville. »
Et le roman bascule très vite vers l'enquête. On ne peut plus décrocher. L'une des premières à rentrer aussi dans la chambre d'hôpital, c'est la détective. Mais très vite, ce qu'on comprend, c'est que cette histoire, elle ne commence pas en 2018. Il est arrivé quelque chose de très similaire à la mère de Stéphanie. Mm-hmm. C'est pour ça qu'elle dit « Oh non, pas toi », à la fin des années 90. Sauf que dans votre vraie vie aussi, Geneviève,
ouais.
Il s'est passé la même chose. Est-ce que vous pouvez raconter aux auditeurs?
Cette violence-là, transgénérationnelle, est à la base de mon écriture aussi. L'injustice s'est répétée. En fait, ce qui est troublant, tant dans le roman que dans ma vie personnelle, c'est qu'il y a une répétition de la violence. Les scénarios sont très similaires. Et là, on comprend que ça ne peut pas être un simple fait du hasard, tout ça.
Votre mère a été agressée à domicile.
Exactement, en pleine nuit aussi. Tentative.
Et vous étiez là?
J'étais là, ma sœur aussi. On a été témoins de la part de ma mère, surtout une fois qu'elle s'est défaite de l'agresseur. Donc, j'ai été habituée toute ma vie, j'ai été conditionnée à réagir à la menace. Et c'est ça qui, je crois, m'a sauvé la vie.
Vous étiez suivie par un thérapeute qui vous a dit d'ailleurs, non mais ce qui est arrivé à votre mère, ça n'arrivera pas une deuxième fois, on ne peut pas vivre toujours dans la peur.
Ouais.
C'est arrivé une deuxième fois.
Mais c'est vrai qu'on ne peut pas vivre 365 jours par année dans la peur, parce que je crois que si je vis continuellement dans la peur, c'est l'agresseur qui a gagné. Et ce n'est pas ça que je veux. Et je veux lui montrer que ma vie a continué.
Exactement. Ça, c'est une enquête qui porte pas seulement sur un agresseur, mais sur cette mémoire qui se répète. Vous aviez le sentiment, en écrivant justement cette fiction, d'explorer quelque chose qui est presque inscrit dans les corps, dans les réflexes.
Oui. Oui, l'histoire, elle est écrite du point de vue de Steph. C'est elle qui mène sa propre enquête, qui cherche ses réponses. Le livre s'adresse à toi, l'agresseur. On le tutoie. Il y a une posture d'affront là-dedans, de mépris.
Il s'appelle
toi, oui. Et c'est ça, on cherche les réponses. C'est très viscéral. Hein. C'est pas du point de vue des enquêteurs. On n'est pas là sur la scène à repérer les traces d'ADN, quelque chose comme ça, mais plus à remettre les morceaux de casse-tête en place pour comprendre ce qui a pu arriver jusqu'à ce qu'on identifie dans le roman un suspect principal et qu'on tente, avec beaucoup d'haleine, de le coincer, quoi.
Et ça permet, en tant que lecteur, de comprendre beaucoup de choses, parce qu'on suit l'enquête policière, mais on suit aussi les notes de psychothérapie qui apparaissent tout au long du livre. D'un côté, on cherche un coupable, de l'autre côté, on essaie de comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur du corps d'une victime. Je pense que c'est un roman qui va aider, d'ailleurs, beaucoup de victimes. Vous devez être surpris, je pense, des témoignages déjà que vous recevez.
Ah ouais, c'est très... Les gens sont généreux. Beaucoup de bienveillance. Je m'attendais à certains trolls, à quelque chose de peut-être attaquant, en contre-coup, mais non, les gens sont pleins de bienveillance, puis il y a des témoignages très touchants, notamment de femmes qui font face à la justice et qui comprennent qu'il y a des moyens alternatifs de se faire du bien.
Oui, parce qu'encore une fois, l'enquête, elle est toujours en cours, mais elle n'a rien donné. L'agresseur de votre mère n'a jamais été retrouvé. Vous parlez d'un attentat transgénérationnel. Est-ce que écrire ce roman, c'est une manière finalement de dire que, ok, l'histoire s'est répétée, mais ça va s'arrêter là, et l'histoire, elle ne se taira plus?
Exactement, c'est pas la violence qui a gagné. Il y a tellement de mains tendues pour réparer. Aussi dans le livre, c'est ça, les personnages secondaires ont une place très importante. Steph est jamais vraiment seule pour traverser ça. Donc c'est de montrer que pour un individu qui veut faire tant de mal, il y en a combien pour faire du bien autour d'une victime, autour d'une survivante. Et c'est ça qui l'emporte finalement.
En parlant de choses qui vous aident à vivre, il y a cette chanson de Nina Simone.
Ouais.
On va entendre quelques notes. Je vais quand même raconter un peu aux auditeurs. Petite, vous vouliez être écrivaine. Mais bon, vous attendiez quand même une lettre de Poudlard en mettant votre réveil à 1h du matin pour lire Harry Potter en cachette. Est-ce que la petite fille que vous étiez, qui voulait devenir écrivaine, qui est poétesse aujourd'hui, est-ce qu'elle reconnaîtrait la femme et l'autrice que vous êtes devenue aujourd'hui?
J'aurais pas imaginé traverser tout ça. C'est un passage à douleur, mais ça m'a quand même permis de réaliser un rêve d'être écrivaine, un rêve qui était devenu poussiéreux parce que c'est pas les études que j'ai suivies. Donc...
Oui, parce qu'avant ce roman, il y a eu de la poésie, ça s'appelle Survivas, que vous aviez publié, des textes où la langue portait déjà sur la survie, la réparation. On dit souvent que la poésie peut sauver. Aujourd'hui, vous êtes aussi porte-parole du Centre de services de justice réparatrice et conférencière. La justice réparatrice, elle aussi, elle cherche à transformer la blessure plutôt qu'à seulement la punir. Et bien finalement, on a l'impression que la poésie et la justice font le même travail, redonner du pouvoir à la vie. Est-ce que ce ne serait pas une forme de magie que vous avez en vous, finalement? Il n'y avait pas besoin d'aller à Poudlard.
Peut-être que oui. Je pense que la littérature a ce pouvoir-là. Tu sais, j'ai un collègue écrivain au Québec, David Goudreau, qui a édité le livre, qui m'a beaucoup accompagnée là-dedans et qui me disait, dans des moments où je devais m'éloigner de ma vérité, être vraiment dans la fiction, que pour moi, c'était un deuil, mais il me disait qu'au final, le lecteur, dans 10 ans, il ne va pas se rappeler l'action de la page 13 du roman, mais il va se souvenir de l'émotion qu'il a porté, qu'il a ressenti au moment de sa lecture, et c'est ça qui va survivre à tout ça. Donc, je pense que c'est ça la magie de la littérature, c'est de pouvoir partager ensemble des expériences humaines qui sont traumatisantes, mais qui deviennent finalement lumineuses au bout du compte.
Vous avez une dédicace ce matin au micro de France Inter.
Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, le lectorat français, les lectrices, les lecteurs qui vont probablement m'accueillir à bras ouverts parce que déjà, je suis bien reçue ici.
C'est un sacré moment que j'ai vécu avec Geneviève Rioux, ça s'appelle Même pas morte. C'est aux éditions Stock. Merci.
Oui.
Merci à Daphné Burki et à Geneviève Rioux pour l'inspiration. Demain, Nemo Fleuret, danseur et chorégraphe, sera dans les nouvelles têtes. C'est la fin de la grande matinale. Vous restez à l'écoute, bien sûr.